Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Oui, bon, ne regardez pas comme ça, c'est Noël, quoi.
Je ris, je ne fais rien, je ris.
On a mis des guirlandes en vitrine de Focus Store, on a dessiné des cristaux de glace au pochoir et on vous accueille dans la boutique avec sur l'étalage les 4 produits culturels incontournables de cette fin d'année. Au rayon cinéma, on vous propose Beast of the Southern Wild. Dans la section CD, il y a l'album de Crystal Castles, Tree. Du côté des séries, on vous parle de Borgen. Et sur la pile de bouquins, on a choisi La Contrée immobile de Tom Drury. Et pour préparer, pour distribuer tout ça, on a convié 4 gentils lutins autour de la table. Ils sont tous journalistes chez Focus Vif quand ils ne sont pas dans l'atelier du Père Noël. Il y a le chef des lutins, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, le boss du magazine, Laurent Raphaël. Bonjour Laurent.
Salut la compagnie.
Il y a le plus gentil des lutins, celui que tout le monde va voir quand il a un bobo, c'est Kevin Dauchin. L'homme à tout faire de la rédaction et petite main de notre site internet. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Il y a le lutin maladroit, celui qui casse les cadeaux et les jouets mais qui ne le fait pas exprès parce que lui aussi il est gentil. Olivier Van Verenberg, journaliste, bouquin.
Bonjour Myriam, bonjour tout le monde.
Et puis il y a le lutin grognon, celui qui casse aussi les cadeaux, mais lui il le fait exprès parce qu'il est pas gentil. Non, il est gentil mais il est fâché. C'est Philippe Cornet, journaliste musique.
Qui refuse d'être infantilisé.
Je sens qu'on va garder cette intro.
Première escale du traîneau avec le disque, celui du duo électro-canadien Crystal Castles. Il s'appelle Tree comme le chiffre et c'est, oh tiens, magie, leur 3e album. On entend donc ici même un bout du premier single qui s'appelle Plague. Crystal Castles a placé des morceaux dans des séries comme Skins, dans des films comme J'ai tué ma mère de Xavier Dolan. On a aussi beaucoup entendu à la radio le morceau sur lequel il était invité Robert Smith, le chanteur de The Cure, ça s'appelait Not in Love. On y sentait déjà un bon petit potentiel épileptique, mais pas au point de ce nouvel album, qui est un disque déprimé, décharné, froid, oppressant, asphyxiant, suffocant. Personnellement, ça a été une vraie épreuve de l'écouter. À force, je crois même que ce disque peut faire entendre des voix, éclater des vitres ou même pousser au crime. Je l'ai trouvé particulièrement insoutenable par endroits, notamment quand il joue sur la stéréo en faisant balancer le son d'une oreille à l'autre. Bref, je lui reconnais des qualités, mais j'ai vraiment détesté. Philippe Cornet, as-tu aimé ce disque ?
Je vais vous parler d'un souvenir personnel en ces temps de Noël.
Oh, encore le livre d'histoire.
Non, j'ai lu que le disque avait été enregistré à Varsovie. Alors, je ne sais pas si c'est une rumeur d'Internet, si c'est Varsovie, États-Unis ou Varsovie, Pologne. Disons que c'est Varsovie, Pologne. J'ai un souvenir de Varsovie, Pologne. C'était il y a très longtemps. Il faisait très froid, il faisait très moche, il faisait très, très, très déprimant. Et en écoutant ce disque, en fait, je me suis dit qu'ils avaient réussi à faire un bond dans le temps. C'est-à-dire que ça sonne à la fois comme un disque du début des années 80 ou de la fin des années 70, un peu électro-industriel chiant, à la Suicide, par exemple. Et il y a ce côté, effectivement, enveloppe oppressante, qui est parfaitement réussi. Mais alors, la question est... est-ce qu'on doit aimer un disque oppressant ? À quoi est-ce qu'il nous sert ? Comment est-ce qu'on va l'écouter ? Enfin, c'est la question que je me pose. Mm-hmm. Et la question, elle grandit au fur et à mesure de l'écoute de ces morceaux, qui sont quand même tous un peu les mêmes enfants d'une famille un peu dégénérée, il me semble. Donc j'ai trouvé le disque assez dur à écouter, et sur la longueur quand même un peu ennuyeux, parce qu'on trouve une formule, donc pour les gens qui ne connaissent pas, qui d'un côté, il y a les claviers un peu dégénérés d'un type qui s'appelle Ethan Kath, et puis il y a la voix de la fille un peu pop, un peu minette, un peu sucrée, qui s'appelle Alice Glass. Bon, les deux ensemble, je sais pas ce qu'ils font en dehors de la musique, mais en tout cas, dans le cadre de la musique, ça m'a semblé un peu, ouais, fatigant, comme disent.
Olivier, moi je pense que ça t'a pas tant déplu.
Oui, non, moi je vous sens très sévère autour de cette table, je vois des regards où on va se déchaîner sur Kissel Castle. Moi j'ai pas été, c'est certainement pas le disque de l'année, mais puisqu'on raconte des grandes histoires, moi ma petite, c'est que j'ai beaucoup aimé Orbital, par exemple, qui était dans les années 90 un groupe d'électro très important, et ce principe de couche de son, personnellement, me parle beaucoup. Alors effectivement, il y a plein de morceaux qui sont très éthérés, qui sont dans le synthétique pur, qui sont à peine avant tout le côté déprimant, effectivement, est un peu lourd, mais il y a quelques morceaux, j'ai noté Kérosène, Sadaïs, que je trouve particulièrement un peu plus pop, presque, le morceau Insuline, que moi j'ai beaucoup aimé, qui est très répétitif, très dur, comme ça en plein milieu de l'album, donc il y a des morceaux que j'ai trouvé pas désagréables. L'ensemble est pas, effectivement, c'est du.
Et cette différence de pression et de balance entre les deux oreilles en permanence, ça n'a gêné que moi. Moi, j'ai cru que j'allais avoir une crise d'angoisse.
Tu me parles de tes acouphènes.
Parce qu'effectivement, c'est des jeux qu'on faisait déjà en musique il y a une vingtaine d'années, cher Myriam.
Ça vire un peu kitscherie quand même, par moment.
Oui, tout à fait. Mais je crois qu'ils assument, j'ai l'impression qu'ils assument ce côté 80, métallique, synthé pur. Je crois qu'ils sont dans leur trip à fond. Et j'ai pas trouvé ce disque désagréable. Je l'ai pas jeté en me disant, ah, je vais avoir une crise d'épilepsie. Il y a des morceaux qui ne m'intéressent absolument pas, il y en a d'autres où je pourrais les remettre en boucle. Encore une fois, l'insuline, je suis très client de ce genre de morceaux.
Il n'y a pas que la gauche-droite aussi, il y a des moments où ça pompe vraiment.
Oui,
on ressent limite physiquement le disque, en fait. On le subit physiquement, ça prend au cœur, mais pas...
Alors, essayez de mettre ce disque lors d'une petite réunion de famille ou d'une bouffe entre amis. Voilà, je vais vous dire que ça vous plombe une ambiance. Voilà, hein.
On a l'impression à certains moments que les parties de synthé, parce qu'apparemment, il a travaillé uniquement sur du matériel vintage et pas sur des computers, elles sont passées à l'envers, tu sais, les vieux trucs,
oui,
comme
c'est ça,
un
tout
peu
à fait.
De...
C'est
ça,
oui.
Et ce son
qui pompe.
En fait, moi j'ai eu l'impression d'être dans un jeu vidéo par moment, avec ce son 8 bits comme ça qui matraque et qui en effet fait du mal au cœur, parce qu'il est intensif. C'est un petit côté électro-primitiviste comme ça. Et je trouve que c'est un album dont on a un peu du mal à définir le sexe. Je trouve qu'il y a un côté transgenre à la fois dans le mélange, mais aussi dans la définition par la voix de la voix, mais aussi ses nappes synthétiques. Je trouve que de ce point de vue-là, il colle assez bien à un disque un peu cuir comme ça, mais Q-U-2-E-R. Et je trouve qu'il a un côté comme ça un peu, du mal à définir ses origines et son genre de manière précise.
Mais juste, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Philippe, par rapport au côté agréable ou désagréable. Du disque, c'est un parallèle qu'on peut faire avec le cinéma. Est-ce qu'un disque nécessairement doit
être absolument... Oui, je me suis posé cette question.
Bien sûr que non. Tu as raison. Il y a des tas d'exemples dans l'histoire de la musique de Cannes à Suicide qui sont faits pour obtenir une réaction un peu extrême de la part de l'auditeur. Enfin, il me semble, et qui peuvent évidemment, c'est une démarche intéressante. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est un peu un disque le cul entre deux chaises.
Il y a une petite mode un petit peu aussi de groupes qui vont vers des choses un peu, ici c'est un peu raté, mais dans le beau bizarre, notamment le groupe sud-africain Diane Tourd, où il y a comme ça aussi ce côté crissant, un peu agaçant, avec une certaine originalité dans une sorte de folie musicale. Mais je trouve que Diane Tourd le réussit mieux que Crystal Castle.
Tout à fait.
Et pourtant, c'est toi qui nous a obligés à écouter
c'est ça.
Oui, mais en fait, le morceau de Robert Smith me plaisait assez
bien.
Oui,
moi aussi, c'est vrai.
Et je crois que je l'ai entendu en boucle pendant l'année, ça devait être en 2011.
Oui, sur Pure FM tout le temps.
Oui, entre autres. Et je trouve qu'il avait la voix, évidemment, de Robert Smith n'était pas pour rien. Il y avait ce côté entêtant, un peu plus dépouillé. Ici c'est la grosse louche, quoi. On y va et synthé et tout, et ce côté un peu jeu vidéo, comme je disais, moi m'agace assez vite, quoi.
Kevin.
Oui, j'avais peut-être une petite citation à rajouter.
Oh, vas-y.
Le disque était dans la shitlist du magazine Drone, donc les pires disques de l'année, et donc ils en disaient l'ouragan Sandy, les poussières ailleurs au goulag, la Syrie, la crise de l'euro, tout ça c'est de votre faute. Et donc ça résume assez bien.
Et on rappelle que Laurent Brex, qui a chroniqué ce disque dans les pages de notre magazine, lui a quand même mis 3 sur 5,
oui,
et on a dit plutôt du bien.
Non, mais Laurent prend des drogues, hein. Je pense qu'il faut le dire quand même ici.
Probablement. Combien
sont Laurent est l'avocat du diable, hein. Il sauve tout ce que les autres vont jouer.
C'est vrai.
Mais pour parler de fin du monde, c'est une bonne BO pour une ambiance de fin du monde.
Eh bien, c'était sa chute justement, Olivier.
Incroyable, voilà, les grands esprits se rencontrent. Hein. On fait bien le travail pour Fox. Petite note sur 10, Kevin.
Je vais lui mettre un 3 comme son titre.
Laurent.
Ouais, 2 sur 10. Ah, plus.
Oui. Oh, 4.
Bon, allez, je vais être le gentil de la bande. Je vais mettre un petit 6.
Ah, oui, moi, je mettrai un petit 4 à Tree, le nouvel album du duo de Toronto, Crystal Castles. Avec du cinéma et avec un conte à la fois enchanté et désenchanté, Beast of the Southern Wild, les bêtes du Sud Sauvage en français, un film primé au festival Sundance de Deauville et qui a aussi été caméra d'or à Cannes. C'est donc un premier film, celui de Ben Zeitling, un tout jeune réalisateur américain de 30 ans qui a une sacrée patte, il faut le dire. Il nous raconte l'histoire d'une toute petite fille, Hush Puppy, à moitié sauvageonne, qui vit dans un baraquement en tôle et en bidon en plastique avec son père, à l'écart de la civilisation, sur une bande de terre menacée par les eaux en Louisiane. C'est une histoire poétique bricolée à base de marginaux, d'enfants aux genoux terreux, d'adultes constamment bourrés et d'une apocalypse qui lentement se dirige vers eux. C'est d'une beauté formelle époustouflante, mais sur le fond, j'ai trouvé ça très moralisateur, très démago, messianique, bourré de symboles jusqu'à l'écœurement, et un peu creux, voire assez ennuyeux, dans le registre poème onirique bobo, avec des enfants qui sont tellement plus adultes que les adultes et qui ne voient bien qu'avec les yeux du cœur. Bref, ça m'a très très vite gavé, mais la presse en tout cas est unanime à son sujet. Louis d'Anvers, dans notre magazine, lui a mis 4 étoiles, Hugues Daillé lui a mis 3 sur 4 en les 5 heures cinéma, Alain Lorfèvre dans La Libye dit que c'est un cinéma où Terrence Malick aurait rencontré Terry Gilliam et Wes Anderson, Fabienne Bradfer dans Le Soir écrit que c'est le genre de film bouillonnant et plein de grâce qui vous saisit au trip et ne vous lâche qu'à la fin tout bouleversé. Bref, c'est le film qu'il faut aimer pour être quelqu'un de bien en cette fin d'année 2012. Laurent Raphaël, es-tu cette personne? Es-tu quelqu'un de bien?
Je suis quelqu'un de bien.
Oui, brûlons Myriam Leroy, je lance un appel ici tout de suite.
Non, écoute, moi je suis assez emballé. Il y a des réserves, hein. C'est un film qui a un peu les qualités de ses défauts, je dirais. C'est un film fait avec 3 bouts de ficelle, ça se voit clairement. Techniquement, il y a plein de défauts. Parfois, c'est assez naïf, et en effet, la symbolique est un peu appuyée. Mais à côté de ça, je trouve que dans le cinéma aujourd'hui, il y a une proposition qui est vraiment originale, quoi. Il y a un regard, il y a un ton, il y a une approche des choses. Que moi je trouve assez séduisante. Alors oui, c'est dans la poésie, dans la fable un peu écologique, post-apocalyptique, mais il arrive à dire des choses sur 2 niveaux, à la fois les grandes questions, et c'est vrai que le parallèle avec Terrence Malick est assez facile, mais s'impose, sauf qu'ici il a réussi ce que Terrence Malick dans Tree of Life avait raté, en exagérant cette partie, cette référence à toute la préhistoire qui était pesante et qui venait au début du film. Ici, l'intégrer dans l'histoire elle-même, et je trouve que ça passe
avec
beaucoup.
Avec quoi? Avec les fameux aurochs, les cavaliers?
Oui, c'est
de...
ça, et avec ce cycle de la vie, le lien avec l'univers qui revient, qui est un peu le mantra du film. On est des individus, mais on fait partie d'un tout, hein. La petite fille parle souvent du puzzle, la pièce qui manque et qui dérègle tout le système. Et je trouve que malgré tout, voilà, c'est un petit film, petit budget, mais il arrive à en faire une ode assez ambitieuse sur le plan des idées, des sensations qu'il fait passer. Je trouve que bon, et ça tient en grande partie, notamment à l'actrice, à cette petite fille qui est assez bouffante.
D'un Oscar éventuel pour elle d'ailleurs. Comment elle s'appelle?
Ce serait
elle
peut-être
s'appelle...
un peu too much,
mais on parle d'un Oscar.
Vingt années Wallis, ouais, c'est la petite fille.
Non, moi je voulais dire, c'est marrant ce que tu dis à propos de Terrence Malick. Bon, ce film plein de bondieuseries où il y a à peu près une demi-heure, je pense, de recréation de l'univers, donc une séquence qui doit coûter, j'en sais rien moi, 5 millions de dollars. Oui, bon, enfin ça se discute.
On en parlera une autre
en post-production. Et là, en fait, l'univers fantasmagorique du réalisateur, c'est 5 cochons noirs déguisés en auroch de la préhistoire. Donc, il y a des cochons qu'on a affublés de perruques, auxquels on a mis des cornes.
De Gaulois.
Et donc, effectivement, il y a un côté homemade movie qui est assez sympathique, mais je trouve qu'il trouve assez rapidement ses limites, dans le sens où alors on parle d'univers onirique, c'est vrai que ça se passe dans un lieu qui est assez fabuleux en soi, mais je comprends pas très bien, par exemple, les parties prises de cadrage. Il y a énormément de plans flous, et à partir d'un certain moment, on a l'impression aussi d'être un peu dans un film amateur, mais pas forcément dans le bon sens du terme, quoi. Et bon, alors à côté de ça, il y a aussi ce zoom sur cette communauté de gens, et on a du mal, enfin personnellement j'ai eu du mal à avoir une certaine empathie pour le couple père-fille qui est au centre du film, parce que le père, bon, qui est...
Il la rejette un peu.
Parce qu'il sait qu'il va mourir.
Voilà, pour son,
mais
pour
ne dévorez pas la fin du film.
C'est le complot. Je trouve ce qu'on dit pas sur le film, et dans toutes les critiques qu'on a pu lire sur le film, bon, moi j'ai pas de réserve, hein. J'ai été bouleversé par ce film. J'ai pleuré devant ce film, comme j'avais plus pleuré devant un écran depuis le dernier épisode de Six Feet Under.
Faut arrêter là.
Je suis pas le seul.
J'étais bouleversé par ce film.
Mais tu viens de te faire larguer, c'est ça.
Je suis peut-être très fatigué, c'est la fin de l'année, c'est la fin du monde, etc. Mais je trouve que d'abord, indépendamment de tout ce qu'on dit, on ne dit pas assez que c'est d'abord une histoire d'amour, je trouve, magnifique, entre un père et sa fille. C'est avant que ce soit une peinture du Bayou, avant que ce soit un film intense, c'est d'abord une histoire, je trouve, d'amour très forte entre un papa et sa fille. Alors, peut-être parce que je suis papa, ça fait vibrer quelques cordes, mais je trouve ça vraiment très très fort, vraiment très impressionnant, et j'ai été vraiment, encore une fois, bouleversé par le film, indépendamment de l'analyse qu'on peut en avoir, et où je peux rejoindre, effectivement, il gagnerait de temps en temps à élargir un peu son champ et sa focale.
Mais c'est drôle que tu parles d'une histoire d'amour entre un père et une fille, parce que moi je pense exactement le contraire. Je vois pas très bien où est l'amour là-dedans, je vois pas très bien...
Il peut rien lui offrir d'autre, puisqu'on est dans l'indigence, on est dans la clochardisation extrême, c'est vraiment... le sous-peuple du Bayou qui vit avec rien, donc il ne peut rien donner à sa fille que la force de survivre dans ce monde-là. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment un rapport très fort entre les deux. La scène finale qu'on ne raconte pas est, encore une fois, bouleversante. Et donc, moi, j'ai vraiment peu de réserve sur ce film. J'y allais presque avec des pieds de plomb, sans trop savoir à quoi m'attendre, avoir une sorte de chronique sociale un peu misérabiliste. Je pense que ce n'est pas du tout le cas, jamais. Je trouve qu'il ne tombe jamais là-dedans, c'est une des forces du film. Et encore une fois, ces acteurs sont prodigieux. On parle beaucoup de la petite fille. Je trouve que le papa, encore une
et
fois...
qui n'est pas comédien, qui est boulanger dans la vie.
Voilà, mais je trouve que ce type dégage une force et justement un mélange de force et de désespérance comme ça en permanence dans le film, qui est vraiment très fort. Donc,
et à côté loufoque, qui donne aussi cette petite, ce vernis. Voilà,
ça démarre sur une fête.
Il y a des zones un peu surréalistes, on ne comprend pas très bien, et en même temps, c'est assez cohérent par rapport à l'univers qu'il crée. C'est un peu une espèce de poème sauvage, comme ça, qui est sorti de tout. Je trouve ça assez bluffant.
Kevin, je te voyais opiner du chef.
Oui, là, tout à fait. Mais moi, j'ai beaucoup accroché aussi. Ce que je trouvais vraiment... vraiment bien foutu et qui fait qu'on rentre dedans, c'est ce mélange de réalisme et de fantastique, justement, avec ces aurochs ils ont beau être faits de cousus de fil blanc, ça nous permet de rentrer dans un univers enfantin qui est une grande partie du film et qui est pour moi, je trouve, très très prenante, quoi.
Un dernier mot là-dessus aussi, je trouve ce qui est très réussi dans le film aussi, c'est que je déteste les films avec enfants d'habitude, ça me hérisse le poil, je trouve ça insupportable, mais ici c'est un enfant qui joue un enfant, on lui demande pas d'avoir des répliques d'adulte ou d'avoir un comportement d'adulte, et on se retrouve vraiment dans l'esprit d'une petite fille de 6 ans, comme un esprit d'une petite fille de 6 ans peut fonctionner, où elle pense que parce qu'elle a poussé son papa, elle a changé le cours du monde, ce genre de choses. Il y a une poésie naturelle et un regard qui est mis au niveau du regard d'enfant que je trouve très réussi.
Moi j'ai trouvé ça assez cruel, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le film, en fait, le père parle à sa fille comme à un mec.
Oui.
Et d'ailleurs, pendant quelques minutes, je me suis demandé est-ce que c'est un gamin ou une gamine,
ouais,
d'ailleurs.
Pareil.
Jusqu'au moment où on l'appelle chérie. Ça c'était clair à partir de ce moment-là, parce qu'il y a aussi une ambiguïté dans cette petite fille qui est fantastique, évidemment, une actrice extraordinaire.
Mais, oui, extraordinaire, vraiment. Moi, je l'ai trouvée tellement mono-expressive.
Non, je trouve
avec
pas.
Avec son petit air fondeur et ce petit sourcil froncé tout le temps.
Mais Rem, tu n'as pas été touchée quand elle monte sur le toit de sa maison et qu'elle appelle sa maman dans la nuit.
Oh, rien à foutre.
Oui, ça c'est un peu bon. C'est un vieux cliché. Ce que je veux dire, c'est que il y a un truc aussi que le père masculinise son enfant comme ça, comme si c'était pour mieux la protéger de la future annonce sombre.
Sous sous-car-monde, hein, je pense que ça explique pas mal de choses.
Tu connais pas la différence entre un garçon
et une fille.
Les pauvres comme ça.
Les enfants sont considérés quasiment comme des adultes. On leur donne une responsabilité d'adulte. D'ailleurs, il la fait boire. Enfin, je veux dire, comme si c'était, comme si elle avait 25 ans. Donc, c'est dans le rapport, je dirais, de cette communauté marginalisée à l'extrême. Et les rapports entre père et fille se construisent là-dessus. Mais ça n'empêche pas, comme disait Olivier, un grand amour derrière toute la souffrance, derrière la misère, de la fille vers le père et, moins évident, du père vers sa fille aussi. Parce qu'il est quand même, malgré tout, malgré la folie, malgré tous les ennuis qu'ils ont, il est quand même toujours présent et il essaie de la préserver d'une certaine
manière. Mais est-ce que tu ne crois pas que si on enlève tout le côté, la chape exotique de ce film, donc la Louisiane, et qu'on se retrouve dans une famille carmonde de Bruxelles ou de Charleroi ou de Belgique, bah, franchement, on dessoule complètement, quoi. Un peu ce qui m'est arrivé. J'ai vu ce film comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas été très sensible à la poésie du Bayou, au grand cri dans la nuit, ni aux aurochs. Enfin bon, le côté fantastique est un peu rigolo, mais c'est vrai que j'ai vu ça comme un film un peu sinistre, bizarrement.
Bah, qu'il soit dur, ça, c'est une évidence. Hein. Il y a des scènes vraiment, encore une fois, entre le père et la fille qui sont vraiment très dures. Il a fait boire.
Il manquait l'inceste, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Oui, et puis il y a quand même aussi toute la dimension, on n'en parle pas, sociale derrière, puisqu'on est dans un univers un peu post-Katrina, post-apocalyptique, où clairement le monde est divisé en deux par une grande digue. Donc il y a aussi quand même toute cette dimension-là qui est introduite et qui est présente malgré tout aussi, qui fait qu'il y a plusieurs couches et plusieurs niveaux de lecture qu'il arrive à faire tenir en une heure et demie avec toute la dimension en plus métaphorique et poétique.
Je suis très curieux de voir la suite de la carrière de ce réalisateur parce qu'il sort de nulle part, son film sort de nulle part, il y a vraiment...
La fille a grandi, elle est taillée, elle va être avocate ou quelque chose comme ça.
Peut-être, on verra.
Bon, ben, j'imagine que vous allez lui mettre plus que moi. Moi, je lui mettrais 3.
Ouh oh, moi, je mettrais 8 carrément.
Ah, vous voyez.
Je suis outré, je mets 9.
9
enfin. Pour moi, un bon 7.
Oh, je mettrais 6.
Ah, c'est bien, Philippe.
On te brûlera juste après qu'on aura fini d'enregistrer.
Ça c'était donc le dernier podcast.
On parlait du film Les Bêtes du Sud Sauvage.
De insisterer på, at din affære med Yvonne Kær har skabt mistillid blandt regeringsparterne.
Det er jo latterligt.
Og de har fået Amir med på vognen.
Nej, altså, det er jo fuldstændig hysterisk. Hvad skal jeg give en offentlig undskyldning, ikke?
La série de la semaine, c'est Borgen, dont la seconde saison a été diffusée très récemment sur Arte. Elle vient de sortir chez nous en DVD. C'est une série danoise avec un pitch un petit peu austère, pour ne pas dire un petit peu chiant. Une femme, mais ça pourrait tout à fait être un homme, une femme donc accède à la fonction de premier ministre du Danemark et on regarde à quoi ressemble sa vie, son œuvre à travers sa perception, mais aussi à travers ce qu'en disent les médias. Alors je me suis lancée le premier épisode avec un enthousiasme, somme toute, très modéré. Et puis en fait, j'ai complètement dévoré cette série en quelques jours. Parce qu'elle est haletante, sans temps mort, sans gras, sans facilité, humainement très dense, réaliste, crédible et très exotique. Moi j'adore hein, cet air pur de Copenhague, les trottoirs tout propres, les ministres qui viennent bosser à vélo, les hommes qui font la vaisselle. Je trouvais ça formidable, hein, même si la deuxième saison est peut-être un peu plus faible que la première, qu'elle essaye un peu de polariser ses personnages, d'en faire des figures flamboyantes. Alors que moi je les aimais bien très normaux, comme au tout début. Kevin Dauchin, qu'est-ce que t'as pensé de cette série ?
Mais je vais rebondir sur ton intro. Tu disais que cette femme pouvait être un homme, et effectivement, moi, c'est peut-être une des choses qui m'ont empêché de rentrer vraiment dedans. Je trouve qu'elle a un côté très thatchérien qui est assez repoussant.
Quoi, le personnage t'a déplu.
Ils sont plutôt de centre-gauche. Bah pour préciser l'ambiance politique du personnage.
Elle est quand même très très froide. À la limite, quand elle rentre chez soi et que son mari lui reproche de ne pas avoir été là, t'as envie que le mari se tape son étudiant.
Mais ça, c'est l'évolution de la série, parce qu'au départ, c'est quand même un personnage éminemment humain, humaniste et très ouvert, mais qui va être travaillé par le pouvoir et qui va devenir quelqu'un d'autre. Oui. Et c'est un peu ça, c'est un peu le fil rouge, un des fils rouges de la série. Parce qu'au départ, c'est quand même quelqu'un de très présent, très, très sensible et par rapport à son mari, à sa famille. Mais le pouvoir est ce qu'il est et
Est-ce que je peux lire une ligne sur le pouvoir ou tu veux continuer, Kevin? Je te laisse continuer, vas-y.
Oui, non, on peut lancer le débat. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve ça assez bien. Je ne vais pas saquer. Je trouve que c'est une série assez prenante.
Moi, je trouve justement que ce personnage, je ne me souviens plus du nom de l'actrice, mais...
Birgit
Knudsen. Ça, c'est le nom du personnage et le nom de l'actrice,
c'est? C'est ça. Sinon, c'est Birgit Nyborg.
C'est ça. Je trouve que là-haut, justement, un visage assez froid, assez fermé, mais que quand elle se met à sourire pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, pour attendrir, elle est d'une lumière ahurissante.
Ce qui est le propre même de la ville et des autres personnages, je trouve qu'ils arrivent à les rendre sexy malgré la froideur environnante, et cette dualité est assez excitante, je trouve, de travailler sur ces deux tableaux-là.
Philippe.
Est-ce que je peux lire? Oui, donc en prélude à chaque épisode, il y a une phrase.
Oui. Hein.
Alors je vais vous lire celle qui était... En prélude du premier épisode. En fyrst skal ikke af naget andelmal eller tange en krigen aldens regelrok des... je sais pas me lire. En français, ça donne un prince ne devrait avoir de but ou de pensée autre que la guerre, son organisation et sa discipline. Et c'est signé Machiavel, non pas le groupe belge, mais l'italien, hein, il me semble. Donc voilà, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement cette espèce de déshumanisation des personnages, et en particulier de la première ministre, que moi je trouve formidable comme actrice, qui se construit au fur et à mesure des épisodes, et qui en fait, me semble-t-il, est juste une leçon de réel politique.
Et je pense.
Et voilà, c'est ça, on comprend à nouveau que faire de la politique, même avec de l'éthique, c'est quand même, ça amène inévitablement au compromis, aux difficultés et aux trahisons.
Et chaque épisode se penche sur un cas particulier, en fait. C'est comme les séries policières du genre des experts, on peut regarder les épisodes indépendamment les uns des autres, parce qu'à chaque fois, il y en a un thème différent. Je trouvais ça assez intéressant de le voir
aussi,
comme ça.
Il faut le dire aussi, c'est quand même...
Olivier.
Oui, moi je suis un peu plus tiède sur le coup. C'est une bonne série, comme a dit Kevin, c'est assez bien.
Je n'ai vu que
la deuxième, donc je n'ai pas vu que la première était meilleure que la seconde. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Philippe a dit et tous les autres sur la leçon de drill politique et un côté intéressant dedans. Je trouve justement que le côté vie privée à côté, on est plus dans la caricature, c'est moins intéressant. Voilà, tu exprimais ta froideur devant le film dont on parlait tout à l'heure. Moi, c'est son adolescente qui est mal dans sa peau, qui doit prendre ses médicaments, qui prend pas ses médicaments, etc. Bon, ça m'a laissé un peu froid. Par contre, ce que je trouve amusant, dès que j'ai regardé en fait les premiers épisodes, j'ai d'abord trouvé ce personnage pas crédible. On est habitué en femme politique à plutôt des Thatcher ou des Merkel, donc le côté mille-feux froide mais quand même rayonnante, je trouvais ça pas du tout crédible. Et puis j'ai vu à quoi ressemblait la vraie première ministre danoise. Et on est tout à fait et dans le rôle et dans la manière. Donc en fait, la série est très crédible. Et je voyais que parallèlement à ça, c'est amusant, il y a eu en fait un fait divers autour de la première ministre pendant la série. Une sorte de scandale sur le fait qu'elle payait pas ses impôts, on a accusé son mari d'être homosexuel, enfin il y avait tout un fond un peu glauque comme ça qui se retrouve dans la série avec le rapport aux journalistes, à la presse. Et donc c'est encore plus réaliste qu'on ne le pense vu de Belgique. Je pense qu'au Danemark c'est très
qualité, c'est le réalisme de la série. On a vraiment l'impression d'être au cœur du pouvoir avec tous ces petits arrangements, et c'est assez excitant rien que pour cet aspect-là.
Et un réalisme journalistique aussi, hein, à travers la figure de Catherine Franz-Marc, qui dans la deuxième saison va travailler pour une feuille de chou absolument indéfendable. Dans la première, elle est quand même beaucoup plus... Enfin, je trouve que ça ressemble à une vraie émission de télévision, une vraie journaliste de télévision.
C'est un peu hystérique, mais...
Est-ce qu'il ne faut pas dire que c'est que l'axe principal, c'est les relations, enfin de la série, me semble-t-il, c'est les relations entre le monde politique et celui des médias.
Oui.
Puisque tout est un espèce de jeu de ping-pong constant entre ces deux mondes-là qui sont à la fois proches et éloignés, un peu incestueux aussi. Hein.
Ouais. Et avec Casper, le script doctor.
Spin doctor.
Spin doctor, oui, c'est vrai.
Un gros secret d'enfance qu'on ne dévoilera pas ici, naturellement.
Oui. Mais par contre, juste là-dessus, finalement, je trouve que la série La Maison Blanche, que sans doute tout le monde connaît, racontait à peu près la même chose, forcément, dans un autre contexte, mais le faisait pas plus mal dans le rapport entre politique et ce que ça demande. Par contre, j'ai trouvé la série intéressante par rapport à la position de la femme dans la société danoise. C'est une évidence qu'elle n'est pas la même qu'ici. Je veux dire, les personnages forts sont tous des personnages féminins. C'est une journaliste femme, c'est une première ministre femme, c'est des personnages vraiment importants. On ne retrouve pas ça dans les séries américaines ou...
Quel horrible pays
Non, je trouvais ça plutôt
justement
intéressant.
On voit que déménageons.
La position de la femme est différente dans les pays du Nord.
Mais on comprend, je crois qu'on comprend aussi assez bien à travers cette série l'attrait du modèle social-démocrate nordique. Enfin, c'est quand même une liberté, une espèce d'aboutissement de la démocratie.
Ah, c'est la version 2.0 de la civilisation.
Voilà, sous sa meilleure forme. C'est quand même assez excitant parce que
cette égalité... On va juste dire que la société danoise, ce sont eux qui payent le plus d'impôts dans toute l'Europe. Pour refaire un peu de politique.
Oh, c'est bien ça.
Oui, mais tout le monde se tutoie aussi. Hein.
Oui.
Ça, c'est assez marrant.
Hi, hi.
Mais ce tuto, est-ce que c'est pas simplement une histoire de traduction que...
Non, c'est comme ça.
Oui. Ah oui, Philippe, il connaît bien l'allemand. Il l'a déjà dit la dernière fois quand on avait parlé de la chasse. Moi, je mettrais 8 sur 10 à cette série. Kevin.
6 pour moi.
Oh, bon.
Moi, 8, 8, un bon 8 aussi.
J'irai jusqu'à 8,5.
Oh, carrément.
Mais je vais suivre mon camarade Kevin, je vais mettre un petit 6.
On parlait donc de Borgen, dont la deuxième saison vient de sortir chez nous en DVD. Et on termine avec un livre, avec un roman, La contrée immobile, signé par l'américain Tom Drorier, paru chez Cambourakis. Sur les volets intérieurs de la couverture, on peut lire combien Jonathan Franzen l'a adoré, comme Paula Fox et d'autres romanciers américains à succès. Eh bien, c'est mon cas aussi. Mais j'ai quand même mis un peu de temps à me laisser apprivoiser par ce récit étrange et décalé, assez inclassable, ni vraiment thriller, ni polar, ni roman noir, ni roman d'amour, ni fantastique, et un peu tout ça à la fois. Au début, moi, je croyais que Tom Drury écrivait ce qui lui passait par la tête, sans souci de construire une histoire, et qu'il voulait juste nous emmener promener pour le plaisir de marcher. Puis je me suis rendu compte que je l'avais mal jugé, qu'il nous emmenait, en fait, bien quelque part. Comment pitcher ce bouquin? C'est quoi l'histoire, en fait? C'est un jeune homme qui s'appelle Pierre, qui est pris en stop par un truand, qui veut lui voler son sac à dos.
Très loin dans le livre, hein.
Déjà très loin. Mais c'est d'abord de l'autre côté du miroir.
Oui, c'est ça. D'abord, il y a une chute à travers de la glace volée. Bon, vas-y, pitche-le nous, Olivier, parce que moi,
alors,
je trouve ça trop difficile.
Effectivement, c'est un livre très difficile à pitcher parce qu'il ressemble à peu d'autres. Moi, effectivement, j'ai aussi beaucoup aimé. Donc, effectivement, on suit un personnage dans une région de l'Ohio qui s'appelle la contrée immobile, qui est basée sur une sorte d'anomalie géologique. Alors que le reste est entouré de montagnes, là, c'est un lieu qui n'a pas bougé depuis visiblement des millénaires. Et donc on suit d'abord ce personnage, d'abord dans son adolescence, une petite histoire d'amour avec une copine qui est à l'hôpital et puis qui le quitte. Et puis on passe quelques années plus tard. Et effectivement, il va faire du patin, il passe à travers la glace. Une femme vient le rattraper, mais une femme qu'on a déjà croisée dans quelques lignes avant. On comprend vaguement qu'il y a du surnaturel qui va venir se mettre là-dessus. Et en fait, c'est plutôt un conte, une sorte de conte moderne pour adultes. Très existentialiste, si on peut employer des mots comme ça, où on se demande en permanence que vit le personnage par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Il y a des péripéties, c'est plus des péripéties que vraiment un scénario. Ça va tourner au thriller parce qu'il se retrouve, enfin bon, peu importe l'intrigue, il va se retrouver avec de l'argent, des gens vont le poursuivre. Ouais. Et c'est plus le rapport de cet être-là à ce qu'il est en train de vivre.
Et, qui est assez spectateur de sa propre
complètement.
Vie.
C'est ce que j'essayais d'expliquer dans l'article qui est paru cette semaine, c'est qu'on ne sait jamais, et c'est ça qui est intéressant, si le type est un maître zen hyper fort, ou si c'est juste un type qui un mot du gland, comme j'ai dit.
Ou attardé mental.
Voilà, qui trinque, qui...
Parce qu'on est quand même dans l'Amérique des losers, hein, quelque
voilà,
part.
Voilà, encore une fois, on est de nouveau là-dedans.
On aime bien ça.
Il y a un décalage. Ça m'a beaucoup fait penser, le livre aussi, à celui qu'on a chroniqué ici même il y a deux podcasts, le Percival Everett. Je trouve qu'ici, Tom Drury réussit tout ce que Percival Everett a raté dans son bouquin. Ce côté décalé, ce côté un peu fantasmatique, ce côté un peu ouaté. Ici, il y a un côté lynchien, très fort, très, très Twin Peaks. Il y a des lieux, des hôtels, des endroits où on sent ce décalage en permanence entre les dialogues et l'action. Il y a toujours un temps de décalage complet. Là où ils devraient être énervés, ils sont très calmes. Là où ils devraient être très calmes, ils s'énervent un peu. Il y a un truc bizarre comme ça. Et ce que je retrouve intéressant dans le bouquin, c'est vraiment une petite musique, en fait. On rentre dedans. Et on entend un rythme, une mélodie qui va nous accompagner dans le bouquin qui nous suit. Et c'est vraiment un bouquin qui donne plutôt envie de suivre ce qui va venir après de l'auteur. Aux États-Unis, il est déjà connu puisqu'il y a une trilogie qui s'achève cette année, en 2013, qui s'appelle La fin du vandalisme, si je ne me trompe pas. Et qui, a priori, a eu énormément de succès aux États-Unis, qui est plus ambitieux que le livre ici, parce que je pense qu'ici, c'est surtout une ambition stylistique. On a parlé de Lynch, on peut parler un peu de Paul Auster aussi, je trouve, dans la manière d'envisager sa personnage et son récit. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne surprise. Je m'attendais pas à grand chose en l'ayant. Effectivement, c'est pas un polar, c'est pas un thriller, c'est autre chose. C'est pas un conte fantastique non plus, même s'il y a des fantômes qui se promènent dans ce récit. C'est une petite mélodie d'un auteur qu'on découvre et qui a priori va sans doute nous amener beaucoup de choses après.
Et alors, il faut noter que ce roman date de 2006 et qu'il vient seulement d'être traduit en français.
Voilà, c'est ça. C'est son premier roman traduit. Il y a une trilogie dont le premier volume sera, je pense, traduit chez Kambourakis aussi en 2013 et qui va arriver. C'est celle dont je parlais, La fin du vandalisme, et dont Jonathan Frenzen a été absolument...
Ça, c'est bien.
Esbaudi.
Ça, c'est beau quand même, hein, être soutenu par Jonathan Franzen. Kevin.
Mais c'est marrant que tu soulignes la ressemblance avec Lynch, parce que quand j'ai commencé à lire le bouquin, je me suis dit aussi, tiens, ça me fait quand même vachement penser à Twin Peaks, dans les ambiances, dans l'ambiguïté des personnages, dans la description de certains lieux, etc. Et je trouve que c'est très très bien réussi comme transcription entre guillemets de ce genre d'univers à l'écrit. Ben voilà, et ce fait qu'on ne sait jamais vraiment très bien ce qu'on lit aussi, si c'est un roman d'amour psychologique, thriller, ou et tout ça, tous ces différents aspects convergent vraiment vers une fin qui je trouve vraiment vraiment très très bien.
Mm-hmm. Il est atypique même jusque dans sa forme, avec ce prologue du traducteur qui est un peu superflu, où il livre déjà quelques clés sur les personnages et sur l'ambiance. Mais voilà, ça participe aussi d'une sortie un peu atypique pour un roman comme ça qui est en décalage. Moi, j'avais un peu cette impression qu'il y avait comme une espèce de calque sur un premier degré de lecture, une espèce de calque avec toute la fantaisie, le côté un peu surnaturel et décalé, qui vient s'imprimer sur ce qu'on est en train de lire et qui donne ce côté un peu... oui, c'est cette Amérique un peu insaisissable du Midwest, avec ce côté magique un peu glauque parfois aussi, mais qui au final fait quelque chose d'assez excitant pour nous Européens en particulier, puisque c'est quelque chose, enfin, on connaît relativement peu ces ambiances là, si ce n'est à travers la fiction. Et enfin voilà, je crois que ça participe un peu des secrets de la magie de soit au cinéma soit en littérature chez ces auteurs là.
J'ai peur de ne pas avoir été sensible à la poésie du Midwest.
Ah,
et avoir tour, aussi, en toute franchise, été accaparé par les 19 épisodes de Borgen que je me suis enfilé. Donc, il faut choisir dans la vie. Non, moi, je me suis arrêté, pour une question de temps aussi, pour être tout à fait franc, à la page 53. Mais aussi parce que j'ai eu du mal à comprendre, où ce type essayait de nous emmener.
Oui.
Alors, peut-être c'est un manque de patience, effectivement. C'est visiblement un livre qui se mérite et qui doit peut-être être pris comme l'équivalent jazz d'une improvisation.
Je crois qu'il demande à lâcher prise, effectivement.
Oui. Ouais,
ça fait penser au film d'Al Hartley, je ne sais pas si vous connaissez, Simple Man, etc., hein, Trust Me, où, en effet, l'intrigue est presque secondaire par rapport au climat qui crée entre les personnages. Et ici, si on n'entre pas et que cette petite musique ne touche pas, forcément, on va rester à quai jusqu'au bout.
Est-ce que tu ne penses pas que chacun d'entre nous a une espèce de degré de latitude comme ça par rapport à un genre ? C'est-à-dire, moi, je vais probablement rentrer plus facilement dans une musique ou dans un film que dans un bouquin.
Oui,
voilà, ça, c'est un
certain
truc de goût.
Mais je crois que la fin, enfin, plus tu avances.
Mais maintenant, ça
bouquin,
me donne envie de continuer avec ce
début.
Que vous dites. Est-ce que vous dites me donne envie
mais
de continuer.
Mais je crois que tu dois.
Donner...
Mais je comprends tout à fait que, effectivement, c'est sur le fil du rasoir. Il y a des livres qui font cet essai-là et où on reste complètement sur le quai, on rentre pas dedans. Il y a beaucoup de bouquins que j'ai comme ça en main, tu sais pas où il veut t'amener et tu le laisses tomber. Ici, effectivement, ça demande qu'on lâche prise et il se fait que sa petite musique m'a parlé, je ne sais pas sur quel corps c'est attiré. Et effectivement, j'ai pu ne pas me poser la question de savoir ce qu'il me racontait, de simplement rentrer dans son récit, et à ce moment-là, on vit un très chouette moment de littérature.
Petite cotation sur 10.
Eh bien, un bon 8.
Un bon 8 pour moi aussi.
Je vais être honnête, je vais pas coter puisque je n'ai pas fini.
C'est vrai.
Laurent. 8 sur 10.
Ah oui.
Ben 8 aussi.
Ah ben voilà, ce sera notre objet culturel de la semaine. C'était un bouquin signé Tom Drury qui s'appelle La contrée immobile et qui est paru chez Kambourakis. Et puis comme c'est la toute fin de l'année, je vous propose de nous astreindre à un petit top et un petit flop de 2012 en quelques mots. Alors je vais commencer, hein, privilège de la présentation. Le flop pour moi, c'est l'arrêt de la série Boss, qui est une série que j'adore, une tragédie shakespearienne moderne qui était diffusée aux États-Unis sur la petite chaîne Starz, qui était visiblement trop ambitieuse pour elle. C'était l'histoire du maire de Chicago qui perd la boule mais qui garde la main mise sur la ville. On en a parlé ici même il y a quelques semaines. Les audiences étaient très mauvaises. La série n'a pas été renouvelée pour une troisième saison, mais il paraît qu'il y aura un film, peut-être en tout cas, pour la clôturer. Et puis le top de 2012, c'est un film, c'est Amour de Michael Haneke. C'est cette fameuse agonie d'une petite vieille avec son mari bienveillant qui la regarde s'étioler. C'est, on le sait, hein, avec Emmanuel Rivas, Jean-Louis Trintignant. C'est pour moi le film de 2012, mais aussi celui de 2013, de 2014 et sans doute bien au-delà, parce qu'il va me hanter très longtemps. Je crois que j'y pense tous les jours depuis que je l'ai vu, ce film, qui était une épreuve, hein, une épreuve un peu comme le disque de Crystal Castles, mais je trouve que pour le coup l'épreuve servait à quelque chose. Le film est nominé au Golden Globe dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Qui a envie de topper, de flopper?
Ah. Vas-y, Kevin.
Oh, bah, quel honneur.
Go.
Ben, en top, c'est pas tout récent, mais je remettrais bien le disque de Tame Impala.
Oui.
Qui est juste incroyable. C'est un disque splendide d'ambiance qui aurait pu sortir dans les années 60-70. Et le fait qu'il sorte aujourd'hui lui donne peut-être encore plus de qualité par rapport à ce qu'il y a autour, je trouve. Il y a des morceaux énormes. Elephant est pour moi le meilleur morceau de l'année, si pas je sais pas moi.
Ah ouais. Carrément.
Niveau, oui non non, niveau, enfin c'est vraiment un grand grand morceau, je trouve. Et en concert, c'est une claque aussi, donc voilà.
Oui, c'était bien, c'était à la baie. Voilà, on y était tous les deux.
Oui.
Et en flop?
En flop, j'aime pas trop mettre un flop culturel, donc je réfléchissais un petit peu, parce que descendre pour descendre, voilà. Mais par contre, je voulais peut-être épingler la pub sur YouTube. qui est, voilà,
ah
qui
oui.
est c'est un peu comme si on te donnait un bonbon pendant tous les jours pendant 3 ans et que du jour au lendemain
on te retire ton bonbon. C'est une pub, tu peux attendre 4 secondes et après tu la passes.
Il y en a beaucoup qui sont impossibles à zapper, justement.
Ah ouais.
et souvent des pubs de 20 secondes qui sont assez
sur YouTube.
Ah, tout à fait.
Ah bon.
Mais je suis tous les jours, hein, c'est mon boulot. Hein.
Mais tu sais que ça permet aux gens qui font les vidéos de se faire un peu d'argent aussi. Enfin,
c'est très très très...
Pour Psy avec Gangnam Style, c'est sans doute plus rentable que pour moi avec
voilà,
une petite vidéo.
C'est peut-être plus rentable que Spotify et Deezer, mais, ouais. Mais ça reste vraiment très très anecdotique. Hein. Je crois que,
oui.
Parce qu'on a un compte, YouTube.
Ah, c'est vrai, et on gagne bien avec ça.
Notre vidéo la plus vue, c'est, je crois, 50 000 vues, quelque chose comme ça. Je crois qu'on a gagné 5 cents dessus.
Oh, bah, c'est déjà ça, hein.
Le début de la fortune.
J'ai le conseil d'administration.
Donc voilà, il faut absolument faire un Gangnam Style pour...
Laurent.
Alors moi, le flop, c'est la myopie du jury de l'Académie française et d'une bonne partie de la presse française.
Pour le
pour
roman.
La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker, puisque voilà, l'énigme de l'année, comme un roman de plage gentillet qui passe pour un chef-d'œuvre.
Un roman qui a l'air traduit alors que c'est un roman écrit en français.
Oui, voilà. Mais on dirait une hallucination collective. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça vient. L'épicentre est en France. Ils ont dû disperser un gaz particulier. Enfin, voilà. En tout cas, ça reste une énigme. Pour moi, ce sera le flop. Alors, côté top, j'avais le choix. Bon, il y a pas mal de choses, mais j'hésitais entre deux films qui ne sont pas du tout du même acabit. Mais il y a Take Shelter, qui était pour moi une des claques. C'est au début de l'année et c'est un des films, quand je repense un petit peu à ce qui m'a marqué, qui reste très présent, en particulier par l'interprétation de Michael Shannon. Je trouve qu'il est habité dans ce film, mais avec toutes les dimensions à la fois intimes du personnage qui s'effondre et avec le parallèle, les échos avec l'univers.
Moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu peux me le pitcher?
Très difficile.
Alors, c'est l'histoire d'une famille, la famille Laforge, qui est une famille de la classe plutôt défavorisée aux États-Unis, mais qui s'en sort, qui a une petite fille qui est muette et sourde. Voilà, mais la famille se tient, tout se passe plus ou moins, ils s'en sortent malgré les difficultés financières et tout ça. Si ce n'est qu'il y a un grain de sable, qui va s'insérer dans la machine, c'est que le bonhomme, Michael Shannon, va commencer à mal dormir, à être, à avoir des cauchemars terribles, et il va être, bon, il craint un peu parce que sa mère a été victime de schizophrénie, et donc il craint de commencer à être habité. Il essaye de cacher ça parce qu'il y a, d'abord il y a une honte, il sent bien que les choses sont en train de déraper, mais ça va prendre une résonance quasiment apocalyptique quelque part, parce que il interprète des choses, des signaux qui dépassent son petit univers, et donc ça va être un bouleversement dans sa vie familiale, dans la communauté. Il va être victime d'ostracisme et tout, et c'est vraiment déchirant. C'est un film qui moi m'a vraiment touché très 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 fort.
Et l'autre film
dans un autre genre, c'est tout récent, c'est Ernest et Célestine. Vraiment un coup de cœur. Pour petits et grands, et je trouve que c'est magique. Il y a de la magie, il y a du suspense, les aquarelles sont magnifiques, ça se déguste avec vraiment énormément de plaisir.
Est-ce que ça plaît encore aux enfants? Est-ce que tu as été avec un
petit? Oui, complètement. J'étais avec mon fils. Scotché, il a adoré. Maintenant, on relit les livres de Gabriel Vincent. Enfin, je trouve que c'est vraiment une réussite. C'est ambitieux artistiquement, et l'histoire a ce petit côté déjanté que Patard et Aubier ont réussi à glisser dedans. C'est vraiment une belle, belle surprise.
Philippe.
Oui, moi, je réfléchissais à ce que je pourrais dire, et c'est plutôt deux impressions, en fait, si tu veux, qu'un classement.
Oui, facile.
Donc, le flop, pour moi, c'est la tendance accrue de plus en plus à la peuplisation du monde, et en particulier de la culture. La différence entre les déclarations politiques, on va dire, de soutien notamment à la culture belge, et ce qui se passe sur le terrain, où on grignote les budgets, enfin, des choses que vous savez. Et d'une manière générale, il y a une tendance à ne plus faire de différence entre le journalisme et le public reportage, ce que je trouve quand même non seulement extrêmement désagréable, mais aussi extrêmement dangereux, à la fois pour les gens qui font du journalisme ou qui essayent d'en faire, mais aussi pour les lecteurs, quoi.
Et un petit exemple, on enfoncerait bien un concurrent.
Je sais pas, non, il y a pas, c'est partout, c'est tout le temps.
Il y a un journal qui fête son anniversaire, on le voit beaucoup.
Bon, c'est constant, il y a une espèce une accumulation de fausses sensations répétées, quoi, que ce soit à propos des hommes politiques ou d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a un peu un ras-le-bol là-dedans. Et à contrario, mon top, ce serait récemment, je suis allé à Anvers sous les traces d'un groupe qui s'appelle Desmona, qui est un groupe anversois pour lequel j'ai une certaine affection.
Oui, dont tu nous parles à peu près.
Oui, j'en parle à peu près quatre fois par émission. Et ce que j'ai aimé, ils m'ont servi un peu de guide à rencontrer un peintre, une chanteuse lyrique et des gens qui travaillent dans, enfin qui ont constitué Occupy Antwerp, donc qui est un peu l'équivalent de ce qui se fait à Wall Street. Et j'aime assez quand la culture se met aussi à avoir des idées qu'on va qualifier de politiques. Je trouve que c'est nécessaire.
On va laisser le silence, parce que le silence après Philippe Cornet, c'est toujours Philippe Cornet.
Désolé d'avoir plombé l'ambiance.
Non, je te rejoins sur beaucoup de choses. Donc, à mon tour,
finir.
Mais écoutez, d'abord, le top, j'ai choisi une BD, je fais simple, avec moins de propos. Donc, ça s'appelle La Grande Dalice, que c'est sorti
magnifique.
Il y a quelques mois chez Air Libre, donc chez Dupuis. Je pense qu'il y a une BD à retenir cette année, c'est celle-là, parce qu'elle ouvre, je trouve, le plus de portes. C'est à la fois une bande dessinée tout à fait grand public, classique, pratiquement du 44 pages, et une histoire d'aventure avec des explosions. Et puis, c'est fait par Vives, Rupert et Mulot. Et donc, on est dans l'expérimental quasi complet, où c'est des pages et des pages entières dans le silence. C'est des cadrages incroyables. C'est une manière de mettre en scène qu'on avait peu vu sur des choses qui se veulent grand public. Donc, je trouve vraiment que c'est une BD qui ouvre des champs d'exploration vraiment passionnants. Et c'est vraiment une BD à retenir et qui est citée, je pense, à Angoulême.
Oui, complètement d'accord.
Voilà, donc ça s'est embêté. Alors le flop, ça va être... Je suis très content de finir. Donc c'est la fin de l'année, mais c'est aussi cette fin de putain de fin du monde.
Oui.
Il y en a marre, c'est terminé.
Si vous entendez cette émission, ce sera le 24. C'est que nous avons probablement survécu pour la mettre en ligne, en tout cas.
En tout cas, a priori, pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Il est bien temps, parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol. On rejoint ce que Philippe disait sur la création de l'information qui n'est plus l'information. On l'a vu à tort à travers... On a fait des dossiers, des émissions sur du rien. Et c'est insupportable, donc vivement la prochaine vraie fin du monde.
Merci Olivier. Ben voilà, c'est fini, il y a même Philippe Cornet qui a sorti l'appareil photo pour nous mitrailler. C'est mignon.
C'est au cas où on disparaîtrait, pour avoir un petit souvenir, laisser un petit souvenir. aux aliens qui viendront nous cueillir.
Eh ben, c'est tout pour 2012 en tout cas. On va vous revenir en janvier avec une cargaison de bonnes résolutions, de bons disques, de bons films, de bouquins, de BD, de séries. Retrouvez-nous en version papier chaque semaine en librairie avec le Gifle Express. Rejoignez-nous sur Facebook sur la page fan de Focus Store, facebook.com/Focus Store. Rendez-vous l'an prochain. Merci tout le monde.
Salut Myriam.
Merci, salut. Salut.
Ciao. Et joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Je suis pas fan. Ding, ding, ding.